Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon, bientôt ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Flaubert disait « Tout amuse quand on y met de la persévérance. L'homme qui apprendrait par cœur un dictionnaire finirait par y trouver du plaisir. » Eh bien, de dictionnaire, il en sera beaucoup question aujourd'hui à l'émission Un livre découvert à laquelle je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues.
La table des matières.
Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Géralde Cousineau, qui est déjà en ligne. Je reçois, elle va rester, elle nous fait ce bonheur-là, je reçois Denise Bombardier aujourd'hui. Bonjour Madame Bombardier.
Bonjour.
Ravie vraiment que vous soyez des nôtres. Nous ferons un spécial Bernard Pivot que je n'ai pas eu le temps de faire lorsque j'avais reçu Jean-François Lépine il y a quelques semaines et que je me promettais de reprendre. Je trouve qu'avec Denise Bombardier en studio, c'est le bon moment. Je vous présenterai l'émission spéciale de la semaine prochaine. Mes amis, figurez-vous que nous allons fêter ensemble la 100e émission. Mais oui. Et puis j'aime bien les chiffres ronds et j'aime bien les célébrer. J'évoquerai aussi une initiative d'une poétesse et auteure qui s'appelle Isabelle Forêt qui a présenté à Québec un parcours littéraire dans l'obscurité la plus complète. J'aimerais tellement qu'on fasse ça aussi à Montréal. Et bien sûr, nous finirons cette émission, vous vous en doutez, par quelques titres, quelques nouveautés en rafale.
Les livres audio, ils en mangent.
Bonjour Monsieur Cousineau.
Bonjour Clotilde.
Comment
bonjour,
ça va Gérald?
Madame Bombardier, bien sûr.
Bonjour monsieur.
Ça va très bien et vous deux?
Oh, bien. Oh. Vraiment, non, mais...
Moi je vais beaucoup mieux que le Québec, c'est vous dire.
Ah. Gérald, aujourd'hui vous nous arrivez avec un livre que j'avais déjà évoqué dans mes rafales. Mais là je m'étais dit, pourvu qu'un jour il y ait quelqu'un qui ait envie de me parler de ce bouquin, et voilà que vous arrivez et que vous me le proposez.
Eh bien, je serai laisse. Celui-là.
Oui, allez-y. Dites-nous le titre d'abord et l'auteur et on va y épeler le nom.
L'auteur est un écrivain, mais c'est un médecin également, ouais, médecin français qui s'appelle Laurent Sexic. On lui doit entre autres Les derniers jours de Stefan Zweig, que je vous recommande également chaudement.
Oui. Et que nous avons, hein, d'ailleurs, c'est un livre qui est enregistré au SQLA.
Alors moi, je vous parle aujourd'hui du cas Edward Einstein. Bon, on pourrait dire le cas Einstein parce que le père était un cas aussi.
Oui, certes.
Alors, Edward Einstein, c'est le fils cadet d'Albert Einstein, prix Nobel de physique en 1921. Bon, la petite histoire, c'est qu'en 1930, la mère, la première épouse d'Einstein, Mileva Maric, une serbe d'origine, une serbe orthodoxe, conduit son fils Edward, le fils cadet du couple, dans un établissement psychiatrique de Zurich. Bon, il est schizophrène. Alors, de là par toute l'histoire, si on veut, il a 20 ans. Alors, Einstein, c'est un problème avec lequel qu'il ne pourra... D'ailleurs, il dit dans une correspondance beaucoup plus tard, « Mon fils est le seul problème auquel... » Enfin, je n'ai pas trouvé de solution, en fait.
Mm-hmm. Oui, parce qu'on se pose la question, est-ce qu'il a été abandonné par son père?
En fait, Einstein a laissé sa première épouse en 1914. Il a également laissé ses deux fils. Donc, c'est Mileva qui s'en est occupée. C'est une sorte de mère courage. Or, Mileva, la première épouse, est une femme qui a un problème de santé depuis longtemps. Certains la qualifiaient de boiteuse. C'est pas très gentil, mais ça dit un peu ce que c'était. Donc, sa première femme souffrante va vraiment s'occuper du fils cadet parce que M. Einstein, lui, bien sûr, entre-temps, s'est trouvé une deuxième épouse. Il vit à Berlin avec une juive allemande. Donc, c'est la vie de ces trois personnes-là que Sexic nous raconte. En fait, c'est une sorte de traitement à trois voix. On entend tantôt Einstein, tantôt Mileva et tantôt Edward. Edward, je vous le dis tout de suite, c'est le fou attachant du récit. C'est vraiment un type attachant et même drôle à son insu. Par exemple, il va dire une chose incroyable, c'est que la fameuse formule E égale MC2, Eh bien, le E, c'est pour quoi? C'est pour Édouard. Alors, il le croit. Il le croit okay. fermement.
Ouais, ouais,
et quand
ouais,
son frère aîné, Hans Albert, lui apprend qu'il travaille en Caroline, eh bien, notre bon Édouard pense qu'on peut s'y rendre en train. Alors, Édouard est très calé en philosophie. Il a lu tout Emmanuel Kant, tout Schopenhauer, mais en géographie, c'est pas tout à
non,
fait la même chose.
Truc.
Donc, il y a ce petit côté humoristique, mais c'est quand même très touchant. Et là, je dirais que l'auteur, M. Sexic, ne juge pas. En aucun moment, il ne juge. Il aurait pu, comme l'ont noté les critiques, il aurait pu accabler Einstein. Oh, il a abandonné sa première épouse.
Mais moi, je m'attendais à ça, honnêtement.
Non, pas du tout. Il n'est pas partial du tout. Il expose les faits et... Finalement, ben, les trois personnages sont très touchants. Même Einstein. Bon, vous avez la femme, je l'ai dit, la première épouse, oui. souffrante, une sorte de mère courage qui a sacrifié sa propre carrière parce qu'elle aussi était une physicienne. Il y a le père, bien sûr, Albert, qui lui, bon, un volage, c'est vrai, mais...
Excusez-moi, bon. je reviens sur ce que vous venez de dire. Refrain connu de la bonne femme qui laisse évidemment toute la
non,
place au génie de l'autre.
Effectivement.
Oui.
Mais il y a le père, donc Albert, volage, mais profondément meurtri par la schizophrénie de son fils cadet. Et il y a bien sûr Édouard, comme je l'ai dit, le fou attachant. Mm-hmm. Et on finit par justement s'attacher aux trois personnages.
Oui.
Et comme l'auteur ne juge pas, eh ben, il expose les faits. On est très touché. Et je vous dirais que tout ça, bien sûr, s'articule sur un arrière-fond historique extrêmement bien documenté. Mm-hmm. D'ailleurs, dans les derniers jours de Stefan Zweig, l'Europe des années 30 était là aussi bien campée. Alors, si vous aimez l'histoire, si le personnage d'Einstein, parce que c'en était un quand même, malgré le fait qu'il ait comme abandonné son fils cadet à l'asile, ils se sont quittés en mai 33 et Einstein ne l'a jamais revu, parce qu'à ce moment-là, il a quitté l'Allemagne nazie pour Princeton au New Jersey. Mais malgré tout ça, malgré le fait que Einstein aurait pu, on aurait pu le trouver coupable, ben, quand on pense que ce type-là a affronté les nazis, la Gestapo, et ensuite aux États-Unis, il a soutenu la cause des Noirs, il fallait le faire dans les années 30, il a dû se heurter au FBI, à M. Hoover, le sinistre personnage, il a perdu sa deuxième épouse, son fils aîné lui en voulait, donc ça n'a pas été facile non plus pour M. Einstein.
Mm-hmm.
Alors moi je dis, tout ça fait que ce récit, moi je ne vous mentirai pas, Claudine, je l'ai écouté trois fois.
Ah oui?
C'est absolument...
Et la lecture est belle,
oui,
la lecture est bonne.
La lecture est magnifique, ce qui ajoute au plaisir.
Si vous me le permettez, Gérald, j'avais monté un petit extrait hier, que dis-je, la semaine dernière, pour annoncer votre
oui.
visite et notre entretien d'aujourd'hui. J'aimerais beaucoup en faire profiter peut-être les gens qui nous écoutent. Qu'en dites-vous? Justement, c'est au moment où elle va entre guillemets, abandonner Édouard dans cet hôpital, c'est ça. On écoute.
À la maison, elle prépare les tisanes, prodigue les mots de réconfort. Elle est la sentinelle de la nuit. Ici, les médecins lui ont refusé le droit de dormir auprès de son fils. Un matelas, même le sol, aurait fait l'affaire. Cet enfant a besoin de sa mère. Son frère, Hans Albert, a un caractère différent, indépendant et fort. Édouard est si fragile. Il est resté le petit garçon qu'elle promenait jadis sur les rives de la Limate. Le mouvement de la poussette le berçait. Il souriait aux anges. Son visage n'a pas vraiment changé. Sinon cette impression d'étrangeté qui s'affiche désormais au coin des lèvres et ses grands yeux clairs toujours perdus dans le vide. Elle aurait consenti à une simple couverture jetée par terre. L'essentiel était qu'Édouard sente sa présence. Un rien peut le briser. La moindre remarque est vue comme une offense. Elle seule console du désespoir et délivre du mal. Rien de ce qui le concerne n'a de secret pour elle. Hélas, depuis quelques semaines, elle ne parvient plus à maîtriser le feu de la colère.
Voilà un extrait donc du livre que vous avez bien dans les oreilles. Si vous me dites que vous l'avez écouté trois fois,
oui,
Gérald Cousineau.
C'est très beau. Et d'ailleurs, j'ajouterai qu'à la fin, enfin, notre ami Édouard apprend successivement la mort de sa mère et la mort de son père, qui meurt en 55, il a 77 ans, je crois. Mmh. Et là, les tout derniers mots du récit, qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui va dire à Édouard, un jour, Édouard, vous avez l'air heureux. Et ça se termine comme ça.
Ah oui. Mais c'est quand même, parce que ça s'appelle quand même le cas,
oui,
Edward
c'est un
Einstein.
Cas, effectivement, parce que il monologue, et là, il y a des délires incroyables, mais c'est parfois, je dis tantôt, drôle.
Ouais,
c'est parfois carrément savoureux. Mmh. Mais en même temps, ça reste touchant, car on sait que, évidemment, c'est pas inventé, ça s'est passé comme ça.
Eh bien, on parlait là à l'instant avec Gérald Cousineau de ce livre de Laurent Sexic. Si vous me le permettez, je voudrais épeler Sexic pour que les gens le trouvent assez facilement. S-E-K-S-I-K, hein, je l'ai bien eu. Et puis bon, Edward Einstein, Edward sans O, cependant, écrit à l'allemande, à l'autrichienne, plus justement, donc E-D-U-A-R-D, et puis Einstein, comme Einstein, E-I-N-S-T-E-I-N, de Laurent Sexic et Gérald Cousineau, que nous retrouvons tous les mois avec plaisir. Il ne nous reste plus qu'une seule émission à faire ensemble, je pense, peut-être. On va s'en reparler.
On parle du mois de juin.
Voilà. Mais de toute façon, sinon, je voudrais déjà qu'on prenne rendez-vous non seulement pour l'an prochain, parce que l'émission va se poursuivre. Du moins, moi, j'y compte bien. Et pour l'instant, tant qu'on ne m'a pas mise à la porte, je ne vois pas pourquoi ça ne reviendrait pas. Gérald, on va se retrouver aussi pour la centième de l'émission.
Oui,
vous serez
sûr.
Là. Alors, je vous remercie déjà d'avance. Je vous souhaite une excellente fin de journée et merci d'être là si généreusement avec nous. Pas chaque semaine, mais à chaque mois. Merci Gérald.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
L'invité spécial.
Madame Bombardier, Denise Bombardier, bonjour à vous d'être là.
Ça me fait plaisir, qu'est-ce que vous pensez?
Oui, je sais, mais vous êtes très occupée, vous êtes toujours...
Oui, mais enfin, vous savez, quand les gens qui disent qu'ils sont très occupés, ça ne veut rien dire dans la mesure où, le temps est fonction de la hiérarchie. Les valeurs de la personne.
Oui, c'est vrai. Et puis en plus, on a toujours l'impression quand quelqu'un nous dit « Ah, tu comprends, je suis tellement occupée. » Moi, j'ai toujours envie de dire « Oui, je te comprends. Moi, j'ai tellement rien à faire. »
Oui, c'est vrai, en plus. De toute façon, de nos jours, les gens ne disent que ça, qu'ils sont occupés et finalement, ils ne vivent pas. Voilà.
Voilà. Et alors là, vous avez eu donc la gentillesse de venir. J'ai dévoré ce dictionnaire amoureux du Québec et honnêtement, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je me suis dit « Oh, un dictionnaire. Je ne suis pas très abécédaire, moi. Je ne suis pas très tout ça. » Puis je me suis dit « Bon, je vais l'ouvrir à une page. » Je vais l'ouvrir à une autre. Alors bon, là, ça a commencé par l'érable. J'ai dit, oui, évidemment, c'est un peu difficilement faire un dictionnaire amoureux du Québec sans parler de l'érable. Puis finalement, j'ai dit, tiens, j'allais voir le A. Tiens, alors le A. OK, bon propos, non, mais là, on peut... Ah, l'accent. Ah, un sénateur français croyant me complimenter me déclara un jour, « Mademoiselle, je vous félicite. C'est la première fois que je rencontre une Canadienne qui n'a pas d'accent. » J'ai compris que si j'avais été noire, il m'aurait dit « Mademoiselle, je vous félicite, c'est la première fois que je rencontre une noire qui est presque blanche. » C'était il y a quelques décennies. Je l'entends tout le temps, celle-là aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Quand je retourne en France.
Ah oui, d'accord.
Et là, du coup, parce que là, en France, on me dit « Ah, t'as pas pris l'accent, c'est bien. Ouais. » Mais là, du coup,
Moi, on me dit « Ah, c'est dommage, t'as pas l'accent », ils me disent.
Ben oui.
Alors, je dis « Si vous êtes gentil, à la fin du repas ou à la fin de la conversation, si vous êtes gentil, peut-être consentirais-je à vous parler un peu avec l'accent québécois. »
Alors, toujours est-il que, je suis partie sur l'accent et puis sur les anglophones et puis sur Denis Arcand et puis voilà, et je l'ai lu comme un livre.
Ah oui.
Et oui, j'ai réussi.
Mais moi, je vais vous dire que j'étais très inconsciente quand j'ai dit spontanément oui. Quand on m'a demandé, on m'a dit on veut faire un dictionnaire amoureux du Québec et on croit que c'est vous qui pouvez le faire. Évidemment, on me flattait. Alors donc, et c'était un hommage qu'on rendait quand même, qu'on rendait.
Mais ce sont des Français qui vous ont demandé ça.
Mais c'est plomb.
C'est plomb,
à Paris,
c'est ça.
Oui. Alors, je ne pouvais pas refuser ça. Mm-hmm. J'aurais pas refusé, mais j'étais effectivement inconsciente de la somme de travail que ça me demandait, parce que c'est très éclectique. En fait, j'ai 105 entrées, ça veut dire... 105 entrées, ça veut dire 105 essais différents.
Exactement.
Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut travailler beaucoup avec de la recherche. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui peut faire un livre d'histoire avec des références historiques constamment. Or, dans ce livre, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas inventer, je ne peux pas intuitionner l'année où Champlain est arrivé à Québec. Ça, je l'ai appris à l'école, évidemment, du temps où on apprenait encore ça. Mais en même temps, j'ai dû faire aussi la recherche. Donc, je me suis fait aider quand même. J'ai demandé à une jeune recherchiste de me faire de la recherche. Mais finalement, et ça, c'est mea culpa, je ne sais pas travailler avec la recherche de quelqu'un. Donc, je suis partie de sa recherche qui m'a quand même donné des éléments, des faits. Et j'ai tout repris. Et le matin, quand je me levais, curieusement, parce que là, je me levais à 4h30 du matin pour écrire, Je ne savais pas quelle entrée j'allais faire.
Oui, c'est ça, parce que le choix des mots...
oui,
parce que j'imagine qu'il a fallu que vous vous asseyiez. Bon, OK, qu'est-ce qui est important? Bon, le tutoiement, par exemple. Moi, j'ai trouvé génial qu'il y ait un chapitre sur le tutoiement.
C'est parce que
oui, c'est frappant.
Nous sommes les seuls francophones qui tutoyons le reste de la francophonie. Et quand ils ne savent pas, eh ben, ils sont un peu en état de choc
ouais,
de se faire tutoyer. Surtout les gens plus âgés qui se font tutoyer ici par des gens plus jeunes.
Ah oui, ça m'est encore arrivé
la semaine
dernière.
Et puis de toute façon, je dis des gens, des étrangers qui viennent.
Oui, c'est sûr.
C'est encore plus, nous on le sait. Ouais. Mais c'est insupportable. Ouais. Et il n'y a pas de raison. Parce que moi, je suis de l'époque où on vous voyait les personnes âgées. On vous voyait les gens qu'on ne connaissait pas. Et on vous voyait, oui, absolument. Et on ne tutoyait que les gens dans son monde familier.
Mm-hmm. Alors le choix, parce que...
Je suis incapable de vous... Évidemment, j'ai fait un choix, non, c'est pas vrai. J'ai fait un choix parce que je suis quand même journaliste, puis j'ai une formation en sociologie, donc il y a des éléments de la société québécoise sur lesquels il fallait se pencher. Bon. Mais pour le reste, le matin, c'est comme si je laissais aller... Mm-hmm. J'écoutais exactement comme quand j'écris des romans, des fictions. C'est parce que moi, si je sais d'avance ce que je vais écrire, ça ne m'intéresse plus d'écrire, je vais m'ennuyer.
Okay.
C'est aussi fou que ça.
Il faut que vous soyez autant surpris.
J'écris,
finalement,
moi, ça me prend la page blanche.
Ok. Hein?
Tout à l'heure, avant de venir vous voir, j'ai fait ma chronique pour le Journal de Montréal de jeudi. Eh bien, je fais un en haut de la page parce que j'écris à la main. Double interligne sur des tablettes que j'achète au bureau en gros, je ne sais trop. Il faut que ça soit toujours les mêmes tablettes. Et avec des stylos encre, des bouteilles d'encre. Et donc, j'ai mis un. Et là, je ne savais pas encore le sujet de demain. Mais là, je suis obligée d'aller dans l'actualité. J'ai regardé, j'avais lu tous mes journaux. Et là, j'ai mis le titre. Et là, c'est parti. Et c'est comme ça. Parce que moi, c'est ça. Il faut que je m'étonne moi-même.
Oui, oui, c'est ça.
Il faut que, intérieurement... Mais c'est curieux, c'est la première fois vraiment que j'en parle. Parce que les gens ne nous demandent jamais des choses comme ça. Et alors,
ici,
le dictionnaire... Oui. Le dictionnaire, il fallait que je vienne ici, ça m'a pris 23 livres avant d'arriver dans un studio où on me pose la question. Mais c'est que ce dictionnaire-là, évidemment, il y a des choses qui se sont imposées à moi. Il y a des choses que je devais faire. Mmh. Voilà.
Est-ce qu'il y a des regrets?
Je n'ai aucun regret parce que ça aurait fallu que le livre ait 2000 pages. Qu'est-ce que vous voulez? Il fallait faire un choix à un moment donné. C'est sûr que il y a des choses que j'ai oubliées.
Comme.
Ben, j'aurais pu mettre certains personnages de l'histoire politique récente.
Oui.
Mais je ne voulais pas trop actualiser. Je ne voulais pas actualiser, en fait, parce que c'est un livre qui va... C'est une référence, le Dictionnaire amoureux du Québec. Alors, et puis, en plus, ça, c'est un livre... qui se lit partout dans la francophonie, donc par des gens qui connaissent pas, qui n'ont pas lu le dernier éditorial sur le fait que Pierre-Carl Péladeau, il ne parle pas toujours très bien.
Non, non.
Ça n'intéresse personne, ça nous intéressait entre nous. Je ne veux pas aller... Non. Et on ne va pas, comme on dit, on ne va pas laver son linge sale
en
dehors de la famille. Quoi.
Parce qu'en plus, à un moment donné, vous le dites très bien dans une entrevue que j'ai lue, vous ne vouliez pas parler de sujets qui choquent.
C'est-à-dire de sujets qui nous... Les sujets qui choquent, on se choque entre nous.
Entre nous, c'est ça. Les conflits,
on les garde.
Et ce qu'il
faut, c'est dictionnaire amoureux.
Bien sûr.
Je veux que les gens... Parce que moi, j'aime le Québec, mais ça a été très bouleversant pour moi de faire.
Parce que
là, j'ai vu tous mes rêves brisés, quoi. Je les sais, mes rêves brisés. J'écris là-dessus tout le temps, mais c'est intellectuel. Là, quand j'ai relu la déclaration, quand j'ai transcrit... La déclaration du général de Gaulle, j'étais plus capable d'écrire. Parce que je me suis retrouvée sur l'autoroute, dans ma petite voiture. À ce moment-là, j'avais une petite voiture, une Fiat décapotable jaune, moutarde. Et j'étais obligée d'arrêter la voiture. Je ne pouvais plus conduire tellement je pleurais.
Ah là là.
En 67. Ouais. Et après, quand j'ai vu la question de 1980, d'ailleurs, je l'ai transcrite intégralement.
Ouais.
Parce que... Une question comme ça, qui prend trois pages dans le dictionnaire amoureux...
Je me souviens plus...
Mais la question, la formulation de la question, ça ne prouve qu'une chose, c'est qu'on ne voulait pas s'engager.
Oui. Oui. Mais d'ailleurs, l'engagement, ça, c'est une question que je voulais vous poser, parce que On a l'impression, en lisant ce livre, que les Québécois ne veulent plus s'engager dans le mariage. Ils ne veulent plus s'engager dans l'indépendance. Ils ne veulent plus Écoute, est-ce que c'est un peuple qui refuse l'engagement?
C'est parce que nous avons fait tout sauter. Nous sommes le seul peuple, et là on peut dire comme ça, c'est pas exagéré, parce qu'on mettons-nous en perspective, nous sommes le seul peuple qui avons déchristianisé et décléricalisé en 15 ans une société qui avait quand même des racines de quelques centaines d'années tout de même.
Oui.
Hein? Et on a cru, puis on était dans l'euphorie. Moi j'ai participé à ça, j'étais jeune, j'avais 20 ans dans les années 80. Dans les années 60. Oh, je me réjeunis. Et alors...
Au diable l'Église, quoi.
Mais c'est sûr qu'on ne s'est pas rendu compte. Et il y a un homme qui s'est rendu compte vraiment, déjà à l'époque, et je l'ai cité parce que pour moi, j'ai une admiration sans borne pour lui. Je l'ai interviewé à quelques reprises et je crois que c'est un des plus grands intellectuels que nous avons eus au Québec, c'est Fernand Dumont.
Fernand Dumont.
Et Fernand Dumont le dit. Il dit, c'est formidable, mais en même temps... On sent bien qu'il se dit, mais savez-vous où on va aller avec ça? Jusqu'où on va aller dans ce rejet d'une partie très importante de notre identité qui nous définissait? Et je raconte aussi que quand j'ai rencontré le grand sociologue américain, qui est israélien maintenant, qui est Hillel Katz, que j'avais étudié en sociologie, moi je pensais qu'il avait 180 ans, mais quand je l'ai vu à Monaco, il y en avait 60 à l'époque ou 65. Et que je me suis mise à lui expliquer le Québec, parce que je suis devenue amie, très, très amie avec lui. Et il m'a dit, « What is Québec? » Bon, et je lui ai raconté. Et quand je lui ai raconté ça, comment on avait évacué les valeurs religieuses.
Oui.
Mais à travers les valeurs religieuses, il y avait des valeurs humanistes.
Bien sûr.
Alors donc, mais il m'a dit, mais... Et j'ai dit, l'identité, c'était la foi et la langue. Il m'a dit... Mais spontanément, il m'a dit, « This is terrible », il said, « you lost half of your identity ». Il dit, « C'est terrible, vous perdez la moitié de votre identité
».
Eh bien, c'est le prix qu'on paie maintenant.
Mais
je ne suis pas nostalgique.
Non,
je ne suis pas révisionniste. Je ne veux pas qu'on vienne à ça.
Non, je comprends. Mais c'est un sujet qui fâche aussi quand même, ça. Parce qu'entre autres, on est forcément d'aborder l'éducation. Parce que vous parlez à un moment donné du cours classique. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, ça me remet aussi moi-même 40 ou 50 ans en arrière. C'était exactement le genre de cours que nous recevions aussi.
Ce qu'il fallait, c'est que le cours classique, ça soit ouvert à tout le monde.
Bien sûr.
C'était pas de mettre la hache là-dedans puis de penser qu'on... Mais à ce moment-là, on était euphorique. On croyait qu'on allait réinventer la roue. Et surtout, on voulait donner à croire, mais c'était pas aussi conscient que ce que j'en dis maintenant, on voulait donner à croire que nous allions inventer l'homme nouveau québécois. Eh bien, un homme nouveau, ça ne s'invente pas. D'ailleurs, les sociétés qui ont voulu inventer les hommes nouveaux, en général, ça n'a pas été le cas du Québec. Tout ça s'est fait dans la démocratie, et même, je vous dirais, dans l'enthousiasme et la spontanéité. Mais on ne peut pas réinventer. On ne peut pas éradiquer des choses, voilà.
Je vous entends parler de Denise Bombardier. J'ai l'impression qu'en termes d'individualité, il y a des gens que vous aimez totalement d'amour et que c'est peut-être la collectivité québécoise aujourd'hui qui vous déçoit. J'ai raison ou j'ai tort?
Non, on ne peut pas dire ça. Je suis déçue de cette incapacité que nous avons à voir la réalité en face. Nous vivons dans l'illusion. On a vécu en pensant que c'était le ciel nous attendait, et je crois que c'est une transposition laïque finalement. De ce qu'on attendait. On attendait le Messie. Eh bien, je vous dirais d'ailleurs qu'en politique, on l'attend tout le temps. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que là, il y a un messie là, qui s'annonce. Et au fond, M. Couillard, qui est un homme qui est sérieux, rationnel.
On ne peut pas dire le contraire.
Il n'y a pas y aura jamais d'engouement pour monsieur. Parce que nous, on s'enthousiasme pour des messies. Et des gens qui viennent vous dire, on va tout changer. Mais on a tout changé. On a à peu près tout changé. Et on a... Qu'est-ce qui nous reste? Et quel héritage avons-nous transmis à nos enfants? Ça aussi, j'en parle dans le livre.
Oui, mais ça, c'est un héritage que vous laissez au Québec. Parce que là-dedans, il y a beaucoup d'histoires, justement, de cette histoire dont très justement vous parliez disant qu'on...
Mais ça, vous me faites très, très plaisir. Parce qu'au fond, en fait, je suis très émue parce que c'est mon héritage intellectuel, ça.
Ben, c'est oui.
Moi, le Québec m'a... C'est au Québec, d'abord, que je me suis instruite. J'ai été éduquée, c'est là que j'ai appris à parler et à respecter ma langue avec des religieuses qui voulaient qu'on parle bien parce qu'elles disaient quand on parle bien, on se respecte soi-même. C'était quand même formidable de dire à des enfants de 6 ans, 7 ans, quand vous parlez, quand on parle bien, mes filles, on se respecte. C'est extraordinaire comme oui. valeur. Et que tout le reste qui est venu à côté, j'ai été la première d'ailleurs à en parler, de cette culture de la bêtise, de l'eau bénite, cette façon qu'on a eue de nous éduquer avec la sexualité. Mais en fait, et en même temps, ça avait des grandes qualités. Parce qu'au moins, quand on savait que le péché existait, c'était plus excitant de le faire.
Mais moi, je vous le dis, moi, c'est même un bouquin que je rentrerai dans les écoles. Là, j'espère que le ministre de la Culture, à un moment donné, nous écoutera, de l'éducation, pardon, Monsieur Blais, maintenant, parce que vraiment, c'est un livre à mettre entre toutes les mains. C'est un livre, j'ai écrit, qui a beaucoup été écrit en pensant aux Français ou aux gens qui vont venir en visite ici. Oui, c'est vrai que vous nous donnez envie de voyager, mais comme vous l'avez dit très justement...
Mais les majorités des Québécois ne connaissent plus l'histoire, leur propre histoire.
Non, alors, c'est donc, ça. Ils ne sont même jamais allés à Anticosti, comme moi. Je suis jamais allée
d'ailleurs,
aux îles.
D'ailleurs, je dis, à titre de provocation, qu'on n'est pas Québécois si on n'a pas pris le bateau à Montréal, dans le port, et si on n'a pas remonté le fleuve Saint-Laurent.
Ah, oui.
Je l'ai fait une fois... Jusqu'aux îles de la Madeleine.
Je rêve de faire ça. Denise Bombardier, il nous reste 2 minutes. Vous rendez-vous compte comment ça passe vite, hein, 15
j'ai
minutes.
L'habitude,
mais oui, vous avez l'habitude. Hein.
Ouais.
Je voulais vous dire que ce que je trouve bien, c'est que vous avez émaillé, mais pas tout le temps, juste ce qu'il faut, ce livre aussi de souvenirs personnels.
Oui.
Je pense entre autres à votre maman. J'ai tellement aimé ça. Quand vous expliquez qu'elle ne faisait pas beaucoup à manger, ou en tout cas, il fallait toujours que ça aille vite, là, les boulettes, les pâtes, le machin.
Non,
et puis tout d'un coup, quand elle a été.
C'était pas mangeable.
C'était pas mangeable.
Non, on mangeait de. Elle faisait de la viande hachée, puis elle
voilà.
mettait une boîte de tomates, puis ça flottait, puis on mangeait ça. Bon.
Et puis là, après, quand les enfants sont partis, tout d'un coup, elle s'est mise à faire des choses merveilleuses, et vous lui avez posé la question, mais maman, mais pourquoi tu ne fais ça maintenant?
Oui.
Pourquoi? Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu?
Elle a répondu, ben parce que je ne suis pas obligée.
C'est ça. Et moi, je trouve ça tellement merveilleux. Il y avait un autre moment aussi que j'avais noté, où vous parlez... je ne sais plus où c'est, mais en tout cas, peu importe.
Je parle de beaucoup de choses.
Oui, mais c'est ça. Mais
je parle de mes tantes.
Et puis, oui, c'est ça. Et, oui. Puis, et puis, l'histoire aussi. Moi, par exemple, à un moment donné, quand vous évoquez ce qui s'est passé sur le Saint-Laurent pendant la guerre,
c'est inconnu. Mais ça, c'est formidable. Ça ferait un film.
Mais exactement.
Parce que c'est vrai que les Allemands sont venus pendant la guerre dans le fleuve et que des gens voyaient... Ils le disaient dans les villages le long de la côte, ils avaient vu des blonds. Ils voyaient les Allemands, mais c'était vrai, il y en a eu des Allemands, puis ils débarquaient la nuit. C'est vrai.
Alors, de Denise Bombardier, le dictionnaire amoureux du Québec chez Plon, que maintenant vous pouvez trouver en audio adapté. Denise Bombardier, j'aurai l'occasion un petit peu plus tard aussi de rappeler tous les livres que nous avons déjà enregistrés et qui sont déjà disponibles de vous. Mais je vous invite à rester avec nous pour la deuxième demi-heure de cette émission-là. J'ai des petites surprises pour vous.
Avec plaisir.
Vous écoutez À Livre Découvert avec Clotilde Seille et ses invités.
Les mots divins, les mots en vain, les mots de plus, les mots d'us. Les mots pour rire, les mots d'amour, les maudits pour te maudire. Les mots bruissants comme des rameaux, les mots ciselés comme des émaux. La fin des mots, la soif de mots qui disent quelque chose. Les mots chéris qui sur mes lèvres n'ont pas trouvé leur place. Les mots muets, les mots buets comme un baiser
sur la glace. Les mots bouclés, clés de l'espace. Les mots oiseaux qui laissent des traces. Les mots qui tuent, les mots qui muent, les mots tissant l'émotion. Les mots pâlis, les mots salis, les mots de prédilection. Les mots qui te caressent comme des mains. Les mots divins, les mots de vin, les premiers mots, la fin.
Et ça, quand c'était chanté par Nougaro, à la toute fin, il faisait « des mots ». Bonjour à vous toutes et vous tous, si vous venez juste de vous joindre à nous. C'est Clotilde Seille, en votre compagnie, avec ses invités, et aujourd'hui avec Denise Bombardier, qui nous fait le plaisir, en plus, de rester toute l'heure de l'émission. Merci beaucoup, Madame Bombardier.
Je vous en prie.
Et écoutez, je suis très heureuse parce qu'il y a quelques semaines, j'ai accueilli Jean-François Lépine, qui est venu nous parler de son livre « Sur la ligne de feu ». Et je voulais faire un spécial Bernard Pivot et un spécial autour des livres que nous avons de lui en format adapté et j'ai pas eu le temps. Parce que, vous savez, imaginez une pareille brique signée Jean-François Lépine. On avait aussi énormément de sujets à aborder et lui, malheureusement, n'a pas pu rester pour la seconde partie. Et là, quand vous avez accepté de venir, je me suis dit, ah ben voilà. Ah ben voilà, je ne peux pas faire autrement, surtout que Bernard Pivot et vous, vous êtes rencontrés encore une fois il y a quelques semaines, ce n'est pas la première et pas la dernière, vous vous êtes rencontrés à Québec au moment du Salon du Livre et il a dit qu'il avait adoré votre dictionnaire amoureux du Québec, il a dit précisément, je pense qu'il est très bon, j'y ai appris beaucoup de choses, c'est un livre qui m'a passionné et c'est en le lisant entre autres qu'il a appris l'existence de la poutine, ouais. Car dans l'épée c'était inévitable.
Et il m'a tanné à Québec, il voulait manger de la poutine, alors j'ai dit écoutez Bernard, la poutine vous aimerez pas ça, mais il me dit mais il faut que je goûte parce que de toute façon votre texte est tellement formidable, ça donne envie d'en manger, et alors que moi la poutine j'ai dit que c'était vraiment innommable quoi, mais c'est un phénomène puisque la poutine c'est mangé jusqu'au Japon, en Australie, partout dans tous les pays du monde, à Thaïlande il y a un endroit où on peut manger de la poutine. Donc on a exporté ça, alors donc, et finalement à la fin il m'a dit écoutez on m'avait donné le nom du meilleur endroit à Québec. Et puis là, j'ai dit, bon, on va y aller. Il m'a dit, oui, mais si j'aime pas, est-ce qu'il y a autre chose à manger? J'ai dit, oui, moi, je mangerai des hamburgers, relish moutarde. Il m'a dit, bon, ça va, on va aller ailleurs.
Alors, quelques titres que nous avons ici disponibles de M. Bernard Pivot. J'ai choisi les mots de Claude Nougaro qu'on a entendu interprétés par David Lynx ici. Et il y a notamment les mots de ma vie. Notre mémoire est pleine de mots et là je voudrais citer Bernard Pivot disant « Il suffit de puiser dedans dans les mots, on trouvera dans ce dictionnaire très personnel des mots qui m'ont accompagné dans ma vie professionnelle comme précisément dictionnaire et mots, plus apostrophe, orthographe, écrivain, lecture, bibliothèque, guillemets. À cela s'ajoute une ribambelle d'autres mots qui relèvent de ma vie privée, de mes souvenirs intimes, de mes manières d'être, de ma psychologie d'enfant et d'adulte, de mes trucs, de mes rêveries, de mes bonheurs, de mes chagrins, de mes petites aventures d'homme devenues publiques grâce à une succession de clins d'œil au hasard. Tous ces mots forment un dictionnaire très personnel, mais les mots de ma vie, c'est aussi ma vie avec les mots. » Rien que ça, je trouve que ça nous donne envie de lire ce livre-là. Oh, j'ai un ou deux extraits pour vous. Extraits de cela. Alors, le mot vieillir. Vieillir, d'après Bernard Pivot. Vieillir, c'est chiant. J'aurais pu dire vieillir, c'est désolant, c'est insupportable, c'est douloureux, c'est horrible, c'est déprimant, c'est mortel. Mais j'ai préféré chiant, parce que c'est un adjectif vigoureux qui ne fait pas triste. Il y a aussi, ici, mieux vaut avoir un incontestable talent d'écrivain et commettre des fautes dans l'écriture des mots qu'avoir une orthographe irréprochable mise au service d'un style médiocre. Je l'aime aussi beaucoup, celle-ci. Bon, il y a aussi, alors là, on revient au dictionnaire amoureux, parce qu'il faut bien dire que c'est une série, hein, une série assez prestigieuse, merci, quand on voit tous ceux qui ont écrit pour cette série-là.
Je suis en très, très bonne compagnie.
Oh là 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 là, je pense à elle, là, je vous dis ça comme ça au hasard, Jérôme Savary, et là, Philippe Solers, qui a d'autres, Alain Decaux, Didier Decoing, enfin bon, et j'en passe, et j'en passe, et Bernard Pivot, qui a écrit le dictionnaire amoureux du vin, qui est également disponible au SQLA. Vous savez que c'est un passionné de vin. Il a commencé par ça, en fait. Il voulait écrire des chroniques sur le vin. Et il y a un moment donné, c'est un éditeur ils sont allés manger ensemble et qui lui a posé toutes sortes de questions sur la littérature. Et il ne connaissait rien. Il ne savait même pas qui
c'était. Non, c'était le foot qu'il aimait. C'était ça. Le sport qu'il aimait.
Le sport. Et puis finalement, oui, c'est ça, exactement.
Le sport.
Voilà. Puis finalement, ils se sont mis à parler de vin. Et comme l'éditeur en question avait un papa qui avait un vignoble, quelque part, un vignoble. Alors, il lui a dit « Oh, bah dis donc, ok. Ok, je te mets en littérature. » Et là, l'autre, il a pédalé comme un fou, le pauvre Pivot. Mais ensuite, il a fait la carrière que nous savons. Deux autres livres que nous avons, c'est « Oui, mais quelle est la question ?» Vous avez lu ça
Non, je n'ai pas lu.
Il se met dans la tête d'un animateur de télévision qui souffre d'une maladie chronique qu'il appelle la questionnite. « C'est plus fort que moi, c'est une seconde nature. Je suis en état de perpétuelle curiosité. » Et puis, il y a ce livre-là. Alors, nous l'avons ici sous la main, qui s'appelle « Cent expressions à sauver ». Et je l'avais déjà évoqué une fois ou deux ici, mais là, je suis contente d'avoir le temps de m'intéresser avec vous à ce livre-là, Denise Bombardier, parce que en tant que Française, moi, lorsque je suis arrivée ici, bien sûr, ça fait maintenant 27 ans que je suis installée, je dirais que j'en connais beaucoup, mais je ne les connais pas toutes.
Non, c'est sûr.
On me surprend encore parfois, je fais « Excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire ?» Là, ça m'arrive, mais de moins en moins. Vous qui êtes souvent en France, quoi, vous y êtes presque
chaque année.
À chaque année,
quelques
mais,
mois. Ouais.
Voilà, c'est ça. Je me dis quand même, vous avez dû vous familiariser avec quelques expressions. Alors, j'ai décidé peut-être de vous tester, et notamment avec des expressions que j'ai retrouvées dans le livre de M. Pivot. Par exemple, si je vous dis « plier les Gaules », d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, là, je vois derrière. Vous savez, vous, les gars, là, derrière? J'ai mes deux rejetons là derrière.
Non, alors je ne sais pas.
Non, vous ne savez pas
non,
du
non,
tout.
Je ne veux pas vous dire n'importe quoi, alors donc...
Bon, alors, ça veut dire en fait... Bon, regardez, c'est foutu. On plie les Gaules, parce que vous qui aimez pêcher, parce que
oui.
La pêche, c'est un des chapitres.
Oui,
et puis, à un moment donné, là, quand on s'aperçoit, ça ne mord pas, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? On plie les Gaules.
Oui, d'accord, voilà. on prend ses agrès et on se tire.
Voilà, c'est ça. Ah, et voilà, et on se tire,
on se casse. Mais moi, j'ai beaucoup de patience à la pêche. Avant de faire ça, moi je suis vite là, moins vite que Denise Filiatro, mais je suis vite. Mais je peux vous dire que à la pêche, je peux rester des heures, des 5-6 heures sous la pluie à relancer et relancer.
C'est fou. Vous aimez
ça. Parce que je suis une personnalité paradoxale.
Ah, j'ai retrouvé tout à l'heure, je vous disais, là, le petit moment personnel, puis c'est la chasse quand vous parlez du petit lièvre.
Ah oui. C'est pour ça que j'ai plus jamais chassé.
Ben oui.
Parce qu'il s'est mis à pleurer comme un bébé parce que je l'avais raté. Ça a été terminé. J'avais un beau fusil, tout travaillé, tout bien. Et puis j'ai donné tout ça. Oui, ça a été terminé.
Mais en tout cas, voilà. Je ne voulais pas vous faire pleurer, mais moi, j'ai été très émue. Oui.
Pas moi.
Le petit...
Mais regardez, moi, j'ai arrêté de chasser, mais je ne pleure pas comme ça.
Bon, cherchez des crosses. Chercher des crosses.
Je ne sais pas.
Non, parce que je me suis dit, parce que vous allez voir, il y a quasiment un rapport.
Mais des crosses, c'est comme des pommes de terre, non?
Non. Alors, chercher des crosses, évidemment, c'est un mot qui a quasiment disparu
en France, pas ici.
Oui.
On parle d'un
cancer. Cherchez-moi, c'est pas ça?
Exactement.
Oh bah oui, d'accord.
Cherchez-moi.
D'accord.
Cherchez-moi. Oui, c'est exactement la même. Bravo. Et là, entre autres, il nous cite une citation, un extrait des allumettes suédoises de Robert Sabatier.
Ah oui, que j'ai connu aussi.
Bon, il s'apprêtait à traverser la rue pour pénétrer dans l'immeuble de ses cousins quand deux de la rue Bachelet, aurais-je dire, plus âgés que lui, vinrent, comme on disait, lui chercher des crosses,
oui,
autrement
oui,
dit,
ça, oui.
Lui chercher des noix. Oh, attendez, j'en ai d'autres.
Oui, j'aime ça. Allez-y.
Laissez pisser le marino.
Oh ben là, vous m'en prenez de... Ça, je ne sais pas.
Laissez pisser. Oh, laisse pisser le mérinos.
Ça veut dire, arrête, n'en parle plus.
Exactement, parce que là, c'est mon intention qui vous a aidé. Hein.
C'est ça que ça veut dire.
Oui, oui, mais c'est ça. Donc, on dit aussi, oh, laisse pisser la bête. Hein. Oh, oui. Allez, laisse pisser.
Enfin, c'est l'homme ça. Qui est la bête. Quand c'est une femme, je ne sais pas ce qu'on dit.
Non, c'est vrai. J'en ai une autre. Celle-ci, elle vient de là. J'ai un ami qui m'a offert les expressions préférées des Français qui n'a pas encore été enregistrée. Pour cause, je pense qu'il y a à peu près 2000 pages et je ne sais plus combien. Alors attendez, ici, je vais vous sortir cette expression-là parce que même moi, je ne la connaissais pas. Ne pas attacher son chien avec des saucisses. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire ne pas attacher son chien avec des saucisses?
Mais ça veut dire de s'arranger pour qu'on nous vole pas ou qu'on... Non, ça veut pas dire ça.
Bah, écoutez, ce qui est
merveilleux...
Parce que
le chien va manger les saucisses,
oui.
Et puis il va se sauver, forcément.
C'est ça. Eh bien, écoutez, ça a rapport avec l'avarice, apparemment.
Ah.
L'image date du milieu du 19e siècle et elle est amusante, nous dit-on dans ce livre, fort charmant parce qu'on y parle beaucoup d'histoire, pour peu qu'on s'y penche un petit peu. Pour que le chien reste attaché, il faut sans cesse renouveler la tâche. Vous êtes d'accord? Parce que sinon, il mange constamment. Ce qui, au final, coûte bien des sous.
Ah.
Et risque de vider la cassette de notre avare avant même qu'on ait pu la lui voler.
Oh mon Dieu.
Voilà. Donc, c'est l'expression ne pas attacher son chien avec des saucisses. Ça veut dire qu'on est très, 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 très avare. C'est ça l'expression.
Oh là là. Alors, hein? On ne paye pas 15 000 dollars pour faire arranger les hanches de nos chiens. Parce que, comme j'ai des amis qui font...
Oh oui,
ça prend pas des avares pour faire ça.
Non, c'est vrai. Écoutez, sinon, un panier percé, ça vous connaissez ça?
Un panier percé.
Bon, le panier percé, les jeunes, écoutez, regardez, 17 ans, ça sort du berceau de leur mère et ça connaît, c'est absolument merveilleux.
Les jeunes pour avoir des enfants, 17 ans, de nos jours.
Oh, vous savez, tout est possible. Allez, on passe au prochain chapitre, on y va.
De bouche à oreille. Une page de littérature.
Bon, mes amis, la semaine prochaine, comme je le disais à Gérald Cousineau un petit peu plus tôt, c'est la centième de cette émission à Livre Découvert. Lorsque je l'ai reprise, moi, je l'ai reprise à la numéro 28. Alors, j'ai demandé notamment à Carmen Lepage et à Michel Gélina, qui sont les deux personnes qui l'ont mise au monde, cette émission-là, d'être à mes côtés. Et j'ai aussi et surtout demandé à plusieurs non-voyants qui participent régulièrement à cette émission-là de venir autour de moi, dont Gérald Cousineau, que vous avez beaucoup apprécié, hein, Denise?
Ah oui, j'ai adoré sa voix. Il a une voix extrêmement séduisante. Moi, je suis très sensible à la voix. Et malheureusement, maintenant, en radio, on prend des gens qui n'ont pas de voix, qui ont des voix éraillées, qui ont des voix pleines d'aspérité, comme les rues de la ville de Montréal. Je ne comprends pas pourquoi.
J'espère que vous aimez la mienne, parce que sinon, c'est
raté. Oui, non, mais vous avez une voix avec beaucoup de force.
Une voix radio-canadienne, c'est toujours ce qu'on m'a dit. Et donc, je voulais vous le faire savoir que cette émission-là, ben, elle sera sur le ton de la fête, bien sûr, mais aussi peut-être de l'émotion. Ah oui, c'est vrai qu'on avait peut-être prévu un petit coup. Oh, mets-nous un petit peu de Michel Fugain, allez. Allez.
Changer ce matin, je n'y comprends rien. C'est la fête, la fête.
C'est parce que quand... Oh, mais allez-y, Denis, je t'en prie.
Non, mais ça va, j'ai pas de voix là, actuellement. Alors donc, je vous ferai pas le coup.
Parce que lorsque j'ai envoyé une invitation audio à tout ce beau monde, c'est avec cette chanson-là.
Bien sûr
que je les ai invités. Alors, ne ratez pas ça. Et j'avais envie de vous dire, C'est quand même incroyable hein, le nombre de gens qu'on peut voir passer comme ça en studio, qui viennent nous parler soit de leurs livres, soit de livres qu'ils ont aimés. Par exemple, je pense à Geneviève Brouillette qui est venue, Catherine Perrin qui est venue, qui a juste traversé la rue, qui est à Radio-Canada, Sophie Fauché, je m'en souviens comme si c'était hier, Louise Portal, Macacoto qui nous a parlé des Misérables, parce que c'est un des livres qui l'a amené en politique. Hein, on s'en souvient.
On comprend pourquoi il est allé en politique s'il aime les Misérables.
Non, mais parce qu'il faut les sortir de la rue.
Enfin, on est misérable parfois quand on est en politique, surtout de nos jours.
Aussi,
mais, avec les critiques.
Mais moi, voyez-vous, c'est pas à ça que je pensais. Ah. On a reçu Kim Thuy, on a reçu Marc Laurando depuis aussi, on a reçu Chantal Lamarre, on a bien rigolé. Sophie Durocher est venue, France Castel est venue, Marina Orsini, hein, il y a pas si longtemps, Jean-François Lépine.
Si je comprends bien, vous les avez tous invités avant moi.
Mais voilà, je suis désolée de vous le dire, tout Montréal était passé sauf vous, mais il était temps. Oh là 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 là, j'ai failli faire une gaffe. Oh là 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 là, que j'ai failli la faire, mais je pense que je me suis bien repris. Je voudrais vous dire à vous qui nous écoutez, si vous avez envie, vous aussi, de nous donner une petite tape dans le dos pour continuer et pour en faire 100 autres émissions et pourquoi pas, n'hésitez pas soit à nous passer un petit coup de fil. Vous savez que si vous ne disposez pas de l'Internet chez vous, vous pouvez nous joindre par le téléphone en composant le 1-800-361-0635. Le 1-800-361-0635. Le poste 220, ou encore, vous pouvez, si vous en avez un à votre disposition ou si quelqu'un autour de vous peut vous aider, nous envoyer un commentaire par courriel en passant par le site internet de Vues et Voix, Vues et Voix en un seul mot, .com.
Des nouvelles et des livres.
Il y a une semaine ou deux, il y a eu un événement à Québec. Je regrette tellement que nous n'en ayons pas plus entendu parler ici. D'abord, je l'aurais annoncé à cette émission-là, mais je me suis dit, il faut en parler pour que peut-être un événement comme celui-ci arrive notamment à Montréal. C'est un événement qui s'appelle la Chambre Noire. Et c'est un parcours littéraire qui nous a été proposé par Isabelle Forêt au Musée de la Civilisation. Vous savez, bon, à Québec, il y a un restaurant qui s'appelle Au Sixième Sens, à Sainte-Foy, où on perçoit la même chose que les non-voyants, donc on est dans le noir totalement. Je sais qu'à Montréal, il y a aussi un restaurant hein, qui, je ne me souviens plus du nom, enfin en tout cas, ça existe. Et là, elle a donc... Au noir, ça s'appelle... Bon, c'est ça. Et donc, il y a ils ont voulu, à Québec, faire dans le noir le plus total. Je ne sais pas comment ils ont réussi ça, mais ils ont proposé une après-midi multidisciplinaire où il y avait de la danse, où il y avait du chant, où il y avait de la musique. Donc, les gens pouvaient en fait aussi toucher, finalement. Il paraît que ça a été une expérience absolument extraordinaire et je me suis dit, il faut que ça se fasse ici à Montréal. Il faut d'ailleurs que ça se fasse partout ici au Québec. Ce serait vraiment extraordinaire. Alors, j'avais envie de vous en parler et vous dire que Isabelle Forêt, c'est d'abord et aussi une auteure. Et de Isabelle Forêt, nous avons un livre d'elle ici qui s'appelle La Crevasse, si mes souvenirs sont bons, parce que là, je suis un petit peu perdue dans mes papiers, j'en ai trop. Voulez-vous un bruit de papier à la radio? Alors voilà, vous allez en avoir un. Je vais peut-être retrouver ça sur mon iPad, mais c'est ça. Donc, elle a écrit ce bouquin-là, La Crevasse, que nous avons ici au SQLA. Alors, moi, je me dis qu'une personne qui met sur pied de pareilles aventures, ça ne peut pas mal écrire, certainement pas. Voilà, La Crevasse, c'était son premier roman. On parle on est dans une petite ville d'Amérique latine ébranlée par un tremblement de terre. Dieu sait si, après ce qui vient de se passer au Népal, il y a quelques semaines, on voit à quoi ça peut ressembler et on est avec un petit garçon qui s'appelle Pablo et qui erre de jour en jour. Et il y a entre autres une crevasse au milieu de la rue, mais on parle aussi des crevasses qui se fondent entre deux individus ou entre deux clans, entre deux familles. Il paraît que c'est un très, très beau livre. La Crevasse, je vous le rappelle, signé Isabelle Forêt.
Quelques nouveautés en rafale.
Pauvre Madame Bombardier qui est en train de ben oui, on est tous en ce moment, c'est les rhumes, c'est
la
trucs,
première fois depuis 27 ans que je tousse, alors n'est-ce pas?
C'est vrai? Oh, ben oui, alors allez-y, laissez-moi.
J'ai attrapé ça, et j'ai attrapé ça à cette île, alors voilà.
Avant de parler, il y a un moment que je voudrais citer dans votre dictionnaire parce que ça m'a fait tellement rire et ça, je l'ignorais complètement. C'est que dans l'alphabet, lorsqu'on arrivait à la lettre Q, on disait que
pour pas dire cul.
Oui, je crois que les gens ont jusqu'à 40 ans, les gens ne savent pas ça parce que je pense que l'école a leur enseigné au PQ, au PQRST. Mais jusque là, et d'ailleurs ça, la réaction était très forte. En France, ils ont adoré, ils ne croyaient pas. Et moi-même, c'est curieux, vous voyez, parce que sur le cul, je me suis dit...
Pour ne pas dire curieux.
Qu'est-ce que je vais faire comme... Et là, j'ai pensé à ça. Ah oui, hein. Parce que quand on apprenait ça à l'école, parce qu'on apprenait très, très tôt l'alphabet, en deuxième année. Et puis on l'annonnait, et finalement, ça rentrait dans la tête. Oui, alors, oui, on disait au PQ. Et quand je suis arrivée à l'université de Montréal, le bâtiment principal, il y a des ailes. Oui. Et on allait, vous avez un cours d'histoire en P292, en anthropologie T414. Oui. Et bien, croyez-le ou non,
il n'y avait
pas de lettre Q, pas d'aile Q. Et j'ai téléphoné à l'université avant d'écrire mon dictionnaire. J'ai dit, excusez-moi, j'ai fait exprès d'ailleurs, bonjour, Denise Bombardier, j'aurais une information. Oui, Madame Bombardier, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? J'ai dit, est-ce que vous avez une aile Q à l'université? La fille, elle était sidérée. Et après, je lui ai raconté, elle a trouvé ça drôle. Mais il n'y avait pas d'aile Q. Et il n'y a pas encore d'aile Q. Et j'ai raconté l'histoire de la petite fille qui arrive dans notre classe au milieu de l'année, dont je crois qu'elle est française, parce qu'elle a un accent, mais en fait, elle est belge. Et puis, la sœur lui demande tout de suite, le premier après-midi où elle est là, on fait la dictée, on fait les dictées tous les jours. Ça, c'était en quatrième année, j'avais 5, 6, 7, 8, j'avais 8 ans. Et alors, la religieuse, après, elle lui fait, et puis les questions. Alors, la petite, elle se lève, elle était très sûre d'elle, cette petite fille-là. Elle fait Q-U-E-S. Nous, les enfants, on devient livide. La sœur ne fait ni une ni deux, elle la prend, elle dit, suivez-moi. Mais elle la sort de la classe. À la récréation, la petite, qui n'était pas du tout démontée, vient nous voir. Nous, on dit, qu'est-ce qu'elle dit, la sœur et tout ça. Elle a dit, mais elle ne comprend rien. Puis vous ne savez pas. Mais nous, les Français et les Belges, nous, c'est cul. Et c'est là que je dis à la fin, je pense qu'en conclusion, je dis, étonnez-vous que les Québécois soient obsédés par le cul.
Alors, voici les titres en rafale depuis le temps que je vous en parle. On va commencer par un livre de Stefan Zweig qui a été enregistré récemment. C'est un livre qu'il a écrit en 1938. En fait, c'était son dernier, c'était l'avant-dernier bouquin qui s'appelait La pitié dangereuse. Ah, oui. Vous avez lu?
Ah, moi, j'ai lu tous les livres de Stefan Zweig.
Oui, tout. Alors,
j'ai commencé ça jeune, d'ailleurs.
Ah oui.
Oui. Mais il était ici, Stefan Zweig, il fallait le prendre avec des pincettes parce que c'était pas tout à fait catholique, hein. C'était pas cachère, tout à fait. Hein.
C'est ça.
Moi, je lisais ça, j'adorais ça.
Alors donc, vous savez que nous sommes à la veille de la Première Guerre mondiale. Il s'agit d'un jeune officier qui est pauvre. Il est en garnison dans une petite ville autrichienne et il est pris de pitié pour une jeune fille, mais infirme et riche. D'ailleurs, il y a un petit extrait où il dit « Il y a deux sortes de pitié. L'une, molle et sentimentale, qui n'est en réalité que l'impatience du cœur de se débarrasser le plus vite de la pénible émotion qui vous étreint devant la souffrance d'autrui, qui n'est pas du tout la compassion, mais un mouvement instinctif de défense de l'âme contre la souffrance étrangère. Et l'autre, la seule qui compte, la pitié non sentimentale mais créatrice, qui sait ce qu'elle veut et qui est décidée à persévérer jusqu'à l'extrême limite des forces humaines. » C'est donc de Stefan Zweig, extrait de « La pitié dangereuse » qui est sorti tout récemment au SQLA. Un livre, alors je ne sais pas du tout si vous allez l'avoir lu. Peut-être que ça va vous mettre beaucoup en colère, je ne sais pas. C'est le livre de Valérie Trier-Veller.
Ah ben, je l'ai adoré.
Bon, merci pour ce
moment.
Vous
lisez son livre sur... D'abord, je la connais. Elle m'a interviewée par Paris Match un jour. Bon, c'est un sacré personnage. Mais deux, elle a été honnie, elle a été insultée avec ce livre. Et moi, personnellement, si vous permettez,
je crois
que c'est un livre qui déconstruit, indépendamment du fait qu'elle est insupportable et tout, elle. C'est un livre qui nous montre comment se déconstruit une passion amoureuse et aussi comment la passion du pouvoir, parce que le jour où il est élu, parce qu'il est amoureux fou d'elle, mais le jour où il est élu, donc il devient contaminé par la passion du pouvoir, et bien ces deux passions ne peuvent pas se vivre à l'intérieur d'une personne. Et c'est la passion amoureuse qui fout le camp.
Qui fout le camp. Mais moi, c'est beaucoup aussi ce que j'ai lu. Puis d'ailleurs, ça va aller exactement avec les propos que vous venez de tenir, Denise Bombardier. À un moment donné, je suis tombée sur une entrevue avec un psychiatre. Et le psychiatre qui dit, mais une chance qu'elle a fait ce qu'elle a fait là. Une chance qui, à un moment donné, elle est allée au bout. Parce que si elle n'avait pas écrit ce livre, il y a énormément d'ailleurs de femmes et d'hommes à qui cela arrive et qui ne vont pas jusqu'au bout, qui vont pas. Et là, il a dit, mais c'était le seul moyen, en plus en tant que personnage public, d'aller au fond des choses et de pouvoir évacuer et de faire son deuil, si tant est qu'elle l'ait fait. Mais ça, on ne le saura jamais.
C'est parce que les femmes se taisaient avant, ben oui, qu'on ne savait
ben
pas
oui,
ça.
Bien sûr.
C'est très menaçant pour les hommes que les femmes se mettent à raconter des passions amoureuses dans l'intimité comme oui. ça. Donc, en ce sens-là, c'est redoutable pour les hommes.
Ah oui, non, absolument. Et vraiment, en tout cas, moi, j'ai hâte de le lire, ce livre-là. Et je sais qu'il y avait beaucoup de non-voyants aussi qui avaient très, très hâte de le lire. Je vais manquer de temps. J'avais d'autres livres à vous soumettre, mais c'est pas grave. Je voudrais aussi, avant que cela finisse, que vous n'oubliez pas que de Denise Bombardier, nous n'avons pas que le dictionnaire amoureux du Québec. Nous avons quoi ? Nous avons l'anglais, nous avons Lettre ouverte aux Français qui se croient le nombril du monde, nous avons Vieillir avec grâce, Aimez-moi les uns les autres, Ne vous taisez plus, Une enfance à l'eau bénite, L'énigmatique Céline Dion, Nos chers amis, qu'est-ce que je n'aurais pas cité encore ? La déroute des sexes, Tremblement de cœur, Le mal de l'âme, Sans complaisance, et quoi encore? Et je vais finir avec ouf, parce que on finit l'émission d'ici quelques secondes, alors ouf, je vais finir là-dessus. Madame Bombardier, Denise, merci beaucoup. Je voudrais vraiment suggérer à tout le monde, procurez-vous ce livre-là, écoutez-le, Le dictionnaire amoureux du Québec par Denise Bombardier, vous allez avoir beaucoup de plaisir. En 15 secondes, Madame Bombardier, au revoir.
Merci.
À bientôt.
Et moi, je vais vous dire, j'ai eu énormément de plaisir à me faire interviewer par vous et à m'adresser aux auditeurs. Ça, j'ai trouvé ça. Je reviendrai. Donc, vous me réinviterez.